responsabilité. Là, pour cette séquence, on va accueillir quatre personnes qui travaillent autour de la question de l'événementiel et qui travaillent à rendre les événements ou les mettre sur la voie du zéro déchet. Alors, ils ne sont pas forcément du tout aujourd'hui encore au zéro déchet, mais en fait, ils ont pris conscience de cette nécessité d'évolution et ils le font au quotidien en essayant de progresser. Alors, je voudrais, du coup, appeler Fabrice Laborde, Isabelle Luoni, Laurence Turtz, et puis, comme la dernière session, le député François-Michel Lambert viendra conclure un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez me rejoindre sur scène? Et puis, vous allez prendre place là-bas. Oui.
Oui, je sais bien,
oui. On s'est vu. Alors, peut-être que tu veux bien te mettre là-bas, au fond, là, sur le, à ta place. Et puis, tu vas commencer à nous expliquer, toi, ce que tu fais déjà à travers Créalliance, ton entreprise.
Ah. Avec un micro. Attends, mais après, j'ai une voix qui porte. Hein.
Ah, il y a le... Oui, on va la porter, ça, c'est rien.
Tiens. On peut même parler sans micro. Hein.
Ah non, avec micro, il faut qu'on t'entende de loin. Voilà, ce que tu fais déjà.
Alors...
Petite surprise. Donc, on avait une intervenante qui est de chez L'Oréal, qui ne peut pas être présente. Voilà.
Alors, c'est pas elle.
C'est pas elle.
Non, c'est pas elle.
Voilà. Donc, du coup, EcoEvent, qui est prestataire pour L'Oréal et qui les accompagne sur cette ambition de zéro déchet, a gentiment accepté au pied levé de venir parler de cette action. Et L'Oréal nous a laissé une petite vidéo pour nous parler de leur démarche.
Voilà. D'accord, merci à toi Béatrice.
Merci.
Et maintenant Fabrice, alors toi, qu'est-ce que tu fais à travers ton entreprise et comment tu veux que tout ça ait un rayonnement de plus en plus important?
Alors, la première chose, après les enfants sont vraiment des consultants, en tout cas les miens sont mes consultants. Et on parle qu'est-ce que je fais au niveau de mon entreprise, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la profession, qu'est-ce qu'on fait à titre personnel. Je vais un peu raconter la vérité, parce que maintenant, je peux raconter la vérité
un peu
beaucoup. Je représente Créalliance, donc Créalliance, c'est toute la partie des stands sur mesure dans les salons, foires, congrès, etc. C'est un quart du marché, et peut-être pas les plus pollueurs, mais comme on est ceux qui construisent le plus, on est effectivement des gens qui font quelques déchets. Pas tant que ça, mais on en fait quelques-uns. Et il y a deux choses. En 2011, j'ai rencontré Béatrice par l'intermédiaire de quelqu'un qui habite Louer, à Grenoble, par notre association, par Créalliance et Leeds, effectivement, on s'est engagé à se faire normer. Et je vais vous dire la vérité, et je pense que je la partage avec le président du Leeds qui est là-bas, les six agences qui ont été normées l'ont fait pour des raisons commerciales. Il faut dire la vérité, parce qu'à l'époque, on n'était pas du tout concerné par ça, mais on s'est dit, tiens, c'est dans la mode, et ça peut peut-être nous apporter quelque chose. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'est normé, toutes ces six entreprises-là, les six premières, même si je voulais être la première et on a été la deuxième, malheureusement. Ces six entreprises-là, on a pris les choses à cœur, réellement à cœur, et on a vraiment, vraiment, vraiment joué le jeu. Ça, c'est à titre macro, on va dire. Et puis, à titre personnel, les enfants sont des consultants, les nôtres, les miens, en l'occurrence. Et j'ai pris conscience de l'importance de la planète. Et dans RSE, dans déchets, dans filières, dans zéro déchet, il y a effectivement ce qu'on va laisser à nos enfants. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « on ne mangera pas de cerises en hiver ». Alors c'est une phrase d'Alain Juppé, il se retire, on peut la prendre maintenant. Elle est tellement vraie, c'est-à-dire il faut faire des choses extrêmement simples. Et la première intervention, elle m'a beaucoup touché, parce que ce sont des choses de tous les jours. En fait, c'est juste une pensée de tous les jours. Et effectivement, on ne mange pas de fruits d'été en hiver. Et je pense que ça peut commencer par là. Ça rejoint un petit peu le fait de... personnellement, on le fait comme ça. L'année dernière, au titre de Créalliance, je me suis fait un peu critiquer, mais non pas par mes membres, peut-être par la profession. J'ai engagé Créalliance dans la réduction des déchets, avec Béatrice, pour 2025. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que Lionel, tout à l'heure, posait une question, et si la réforme, et si l'amélioration venait par la loi, alors, tu disais par le juge, moi je dis par la loi, à un moment donné, si les professions, si les filières ne veulent pas se tenir la main, et ne veulent pas tordre un petit peu le bras à l'ensemble de ses membres, en leur disant, voilà, les patrons de filières doivent fixer le cap et se dire, on va aller vers là, et bien effectivement, rien ne bouge. Parce que quand vous faites des réunions, des séminaires, des colloques, et que vous demandez aux gens, vous voulez vous faire chier avec la filière, la réponse est non. Alors que quand vous leur dites, on s'est engagé, on va y aller, les gens y vont. Et découvrent au fur et à mesure qu'effectivement, ce qui peut être une contrainte, ne l'est pas. Et à titre d'exemple, et je finirai peut-être là-dessus...
C'est très bien, tu as respecté ton temps.
Si j'ai le temps, en plus... Alors par contre, si j'ai le temps, je peux rester une heure.
Non, je n'ai pas dit, c'est pas du tout ce que j'ai dit.
Ah, je suis un peu comme, là, je vais un peu comme Bertrand, moi. Oui. Dès qu'on me donne le micro, bon bref.
Enchaînons,
à titre d'exemple, le passage à la norme dans ma propre entreprise nous a fait économiser 100 000 euros. Voilà. Et pas d'emblée. C'est parce qu'on a été au bout du bout du bout du bout de la réflexion dans le traitement, etc., dans le traitement des déchets, dans la façon de travailler. Et c'est, je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à Béatrice, c'est la stricte vérité. Donc en fait, tout ce qu'on dépense à côté est largement couvert par les économies que l'on fait. Et enfin, on ne mangera pas de cerises en hiver. Dans la RSE, il y a un autre pan qui est très important pour moi. C'est celui d'ailleurs qui m'a un peu intéressé, à part le fameux tampon commercial. C'est le côté social, le côté sociétal. Alors, le côté sociétal, il vient par les enfants, hein, de façon très claire, parce que c'est ce qu'on va leur laisser. Mais il vient aussi par une sorte de protectionnisme. Alors, pas un protectionnisme économique, mais le fait de aussi construire le monde du travail pour nos enfants de demain. Et c'est-à-dire, quand on consomme local, quand on fabrique local, quand on a une réflexion générale, l'écologie, les déchets, c'est pas aussi nos ouvriers qu'on laisse au chômage. C'est aussi ce qu'on emploie en interne. Et toute cette filière-là, toute la filière de l'événementiel doit s'engager là-dedans. Doit s'engager vers... En plus, l'événementiel, c'est une spécificité française. On est réputé pour
là,
ça.
Là, il va falloir conclure. Donc,
tu vois, je savais que tu allais le faire. Et donc, le côté sociétal est la deuxième chose, le deuxième point très important, effectivement, de cette filière et des choses vers lesquelles on doit s'engager. Je vous remercie. Et
bravo.
Bonne journée.
Merci beaucoup pour ce témoignage et cette ouverture. Isabelle, toi, tu travailles chez Hopscotch. Je ne sais pas exactement quelle est ta responsabilité au sein de cette entreprise, cette grosse entreprise d'événementiel. Et tu t'es aussi lancée dans une trajectoire, on pourrait appeler ça comme ça, zéro déchet. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites, pourquoi vous le faites? D'ailleurs, je crois que Hopscotch... Viens avec nous. Ouais. Ah, je te le donne. Est candidate pour un prix cet après-midi, c'est ça?
Totalement. Donc Isabelle Lioni, là-bas je suis la directrice des achats du groupe Hopscotch, donc automatiquement ça va dire que c'est pas tellement glamour.
Non,
parce qu'on a toujours une notion de l'achat, et moi j'ai donné du sens à mon bestier en intégrant les critères du développement durable dans ma politique achat. Dans tous les cas, il fallait que j'achète, et tant à m'entourer de partenaires, autant s'entourer en tout cas des meilleurs, des plus vertueux, et ceux qui avaient les mêmes valeurs que nous. L'événement, c'est éphémère. Donc quand on parle du zéro déchet, c'était voire même une utopie. On fait briller les yeux de plein de monde tous les jours, mais ça reste quand même de l'éphémère, et donc on en est à l'événement jetable. Et donc c'est insupportable, en tout cas moi j'y arrive plus. Donc je peux m'entourer des meilleurs prestataires, on peut essayer de travailler sur l'éco-conception, parce que l'éco-conception c'est automatiquement c'est la victoire du meilleur zéro déchet. Néanmoins vous allez avoir les graphistes, les créatifs qui vont dire c'est dommage, on perd un peu d'âme. Donc je me suis acharnée pendant des années à trouver des filières pour récupérer mes déchets. C'est-à-dire je vois... produire des événements, je vais générer des déchets, comment je peux trouver des filières pour récupérer ma moquette et la recycler, récupérer mes bâches enduites de PVC pour les recycler. Et puis au fur et à mesure j'avance, j'ai eu la chance, et ça c'est par le biais de Donatienne qui est dans la salle, elle m'a demandé d'intervenir sur le festival Zero Waste, alors j'ai pris une grosse claque, parce que là j'ai vu ce que c'était vraiment que le zéro déchet. Donc j'ai vu un festival Zero Waste et je me suis dit, est-ce que moi je peux l'appliquer pour les événements Hopscotch? Bon, alors là, je ne vous raconte pas que ça n'a pas été super, l'accueil à l'agence. Néanmoins, petit pas par petit pas, ce que j'ai entendu ce matin, on n'est pas obligé d'être parfait, mais on peut avancer. Et donc, j'arrive plus à l'éco-conception, j'en arrive à me dire qu'il faut que j'arrête de penser déchets et de me dire que pour faire un bel événement, ça va me demander des matériaux. Et qu'à la fin de mon événement, ces matériaux peuvent être amenés à être réutilisés dans d'autres industries. Alors pas automatiquement dans l'industrie de l'événement, mais d'autres industries. Donc là encore, y a des acteurs qu'est Phoenix qui vous aident à trouver des récepteurs, donc qui jouent cette courroie de transmission entre nous donateurs et les autres récepteurs.
Tout tu ça, peux juste en fait, pardon, expliquer ce que fait Phoenix, parce que tout le monde n'est pas au courant.
Phoenix, totalement, c'est un acteur avec lequel j'ai commencé à travailler sur la notion du don alimentaire, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Là, on parle du zéro déchet sur le non alimentaire avec les matériaux, mais on a commencé à travailler ensemble sur le don alimentaire, parce que là aussi, dans les événements, pour moi, c'est insupportable d'avoir ces grands buffets, c'est très bien, mais une fois que c'est terminé, jusqu'à maintenant, on jetait. On est rentré dans l'air, c'est plus possible après tout ce qu'on sait, et donc Phoenix met à nos dispositions des chefs de projet, des glacières, des petites voitures frigorifiques. On se met d'accord en amont sur voilà ce que je vais faire, voilà mes menus, tu viens récupérer à telle heure. On choisit ensemble des associations. Pour exemple, chez Hopscotch, cette ligne, parce que c'était une ligne budgétaire accrochée dans un budget en disant voilà, traiteur, 300 couverts, tant d'euros, option don alimentaire, tant d'euros. En tant qu'acheteur, je travaille également dans des associations d'acheteurs et je me suis dit, mais 9 fois sur 10, vous refusez la ligne. Donc on se dit tous avoir, avoir des critères RSE dans sa démarche achat, de créer des grandes fondations dans les grands groupes du CAC 40. Mais quand je vous rajoute la ligne gestion du don alimentaire, il n'y a personne qui l'achète. Donc j'ai pris le problème à l'envers, je l'ai imposé. Voilà, c'était tellement une évidence de ne plus jeter, je l'ai imposé. Et je suis contente parce qu'en fait, il n'y a aucun annonceur qui me dit non, je ne demande pas la ligne. Voilà, on a pensé un peu comme le don d'organes, c'est qu'on a imposé la ligne du don alimentaire. Voilà. Et donc je reviens avec Phoenix sur la notion de cette courroie de transmission qui nous aide à trouver des récepteurs. Donc c'est vraiment un travail très intéressant, mais je m'aperçois dans ce que j'essaye de faire tous les jours chez Hopscotch ou auprès de l'événement ou auprès de l'Unimev ou mes confrères acheteurs, c'est que c'est aussi et énormément un défi humain, c'est-à-dire d'engager la profession à produire autrement, à penser autrement, à démonter autrement, de penser tri, de parler avec des monteurs, de parler avec des lieux pour qu'ils nous laissent un petit peu plus de temps lors des démontages. En fait, il faut repenser le business model des événements pour continuer à faire des paillettes dans les yeux auprès de tout le monde, mais d'arrêter de jeter parce que c'est insupportable. Voilà, donc pour moi, c'est un défi humain. Et puis surtout, et si je continue et si je suis aussi engagée, c'est que c'est un super défi, fédérateur. En tout cas, moi, chez Hopscotch, je suis contente, c'est qu'il n'y a plus un chef de projet dorénavant qui jette. C'est-à-dire qu'ils viennent me voir en disant « Bon, Isabelle, je ne sais pas comment ça marche, mais là, j'ai un fond de scène, j'ai une bâche qui fait 30 sur 12, j'en fais quoi ? J'ai compris, je ne pouvais plus jeter. J'ai un carré de moquette, j'en fais quoi ?» Voilà, donc au moins, on se pose la question. Ça a suscité l'intérêt d'eux et moi j'ai ouvert les yeux et j'essaie de vous faire ouvrir les yeux à mes collaborateurs en disant l'événement c'est génial, mais l'ère de l'événement circulaire c'est maintenant.
Merci, merci. Alors une autre façon c'est d'organiser des événements qui portent finalement cette fibre environnementale et cet engagement dans leur identité propre. Et c'est ce que tu fais en ayant lancé l'EcoTrail. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler de cet événement sportif que tu as lancé et puis de ses perspectives?
Bonjour à tous.
Au-delà.
Bonjour. Donc oui, alors l'EcoTrail, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Je sais pas, peut-être qu'il y en a même qui ont peut-être couru l'EcoTrail. Donc l'EcoTrail, c'est une course à pied. Un trail, c'est une course qui se court sur des chemins. Et on a lancé l'EcoTrail en 2008, donc à l'époque, on a l'impression que c'était la préhistoire déjà il y a 11 ans, mais c'est vrai que l'éco-responsabilité, c'était moins dans les têtes des personnes, et on a eu un peu ce défi fou de vouloir lancer une épreuve qui mette en valeur donc, le patrimoine culturel et naturel de la région Île-de-France et qui soit aussi éco-responsable. Donc ce défi un peu fou, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2008, on était 3 à l'avoir lancé, on avait eu 1200 participants, et ça avait commencé sur cet aspect éco-responsabilité, c'est qu'on s'est dit on va faire courir des gens 80 km. Donc 80 km, c'est pas accessible à tout le monde, ils vont pas partir de Paris, ils vont partir à l'extérieur de Paris, et donc on leur donnait tous un ticket de RER, c'est tout simple. Et ils allaient tous sur les zones de départ en RER, donc ce qui limitait déjà beaucoup l'impact. Donc ça, c'était déjà dans l'ADN de l'épreuve. Et aujourd'hui, on a à peu près 12 000 participants, donc on a multiplié par 10 le nombre de participants, donc c'est vrai que progressivement, le nombre de participants augmentant, on s'est dit comment on fait pour gérer toutes les différentes problématiques liées aux déchets. Parce que c'est vrai que le zéro déchet, c'est un superbe objectif. Mais sur un événement outdoor, donc qui n'est pas en intérieur, qui n'est pas un salon fermé, c'est, je dirais, plus complexe, d'autant plus qu'on s'appuie, nous, énormément sur des bénévoles. Et donc, les bénévoles, il faut les former, il faut leur expliquer. Donc ça, ça a pris du temps. Mais voilà, on peut dire qu'on a mis énormément de, je dirais, dispositifs en place. Donc je vous ai donné l'exemple des tickets de RER. On a un autre exemple, c'est qu'on avait une course qui partait du parc de Saint-Cloud. On emmenait les participants en navette fluviale de la Tour Eiffel jusqu'au parc de Saint-Cloud, parce qu'on avait un accord avec les vedettes de Paris, et c'était une navette électrique. Voilà, c'est ces petites choses-là. Mmh. Et puis après, on est passé ensuite à la collecte vraiment et au tri des déchets. C'est-à-dire, l'année dernière, on a utilisé, et depuis maintenant 2 ans même, on utilise donc les vaisselles compostables. Donc on a supprimé, je dirais, les bouteilles en plastique, toutes les assiettes en plastique, et on fait uniquement maintenant du compostable pour les assiettes. Les gobelets ont été supprimés aussi depuis plusieurs années. On passe par Moulineau, pour ceux qui connaissent, pour tout ce qui est compostable. Donc c'est eux qui font la collecte derrière. Donc on a mis ce genre d'action. Ensuite, il y a toujours une image qui est un peu choquante sur les événements, surtout en course à pied, ce sont les gobelets d'eau. Mmh. Donc maintenant, sur le trail, ça fait déjà plusieurs années, maintenant les gobelets ne sont plus fournis. C'est les coureurs qui viennent avec leurs propres gobelets. Donc ça, ce sont des dizaines de milliers de gobelets aussi qui disparaissent du jour au lendemain. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Les coureurs ont leurs propres gobelets. Et naturellement, ils ne se posent plus la question. Ils présentent leurs gobelets au ravitaillement. Donc j'espère qu'un jour, sur les courses de masse, on arrivera aussi à supprimer les bouteilles d'eau. Bon, ça, c'est un autre
débat. Il faudrait que tu organises le Tour de France, en fait.
Le Marathon de Paris, par exemple. Si un jour, ça changeait d'organisateur, peut-être qu'on pourrait supprimer les bouteilles d'eau. Mais voilà, on verra.
Pourquoi il y a un lien entre toi et le Marathon de
Paris? Non, mais l'appel d'offres a été lancé sur le Marathon de Paris. Ah. Voilà. Donc il y a un certain nombre de sociétés qui ont répondu. Voilà.
Dont toi, peut-être.
Dont nous, voilà. Et on a cet objectif de supprimer les bouteilles d'eau du Marathon de Paris, ce qui est un challenge. Mais voilà.
Pas mal.
Et donc pour en revenir à l'éco-trail, il y a aussi quelque chose aussi qu'on a fait dès le début, vous en parliez tout à l'heure, c'est le don alimentaire. Le don alimentaire, dès la première année, on s'est retrouvé avec des stocks. Mmh. Et c'est vrai qu'on allait voir naturellement les Restos du Cœur. Parce qu'on leur dit, ben voilà, il nous reste tout ça, comment on fait? Donc c'est vrai qu'après, il y a toute la problématique du chaîne du froid à gérer. Donc nous, quand on a lancé l'éco-trail, on était bénévoles encore. On n'était pas encore en structure professionnelle. Donc on a appris sur le tas. Donc c'est vrai que la chaîne du froid, comment on fait? Donc quand on ne pouvait pas donner au Resto du Cœur, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait aux bénévoles, en fait. Donc les bénévoles repartaient avec le reste alimentaire aussi, ce qui permettait de n'avoir plus rien à la fin. Voilà. Et puis les bâches, on parle des bâches, toujours une problématique, les bâches à la fin des événements. Donc je crois qu'on a des bâches, ça fait 11 ans qu'on les utilise.
C'est les mêmes.
Les mêmes, sur certains. Alors, pas toutes, mais certaines. Avec le logo n'a pas changé en 11 ans. Donc, depuis 11 ans, on utilise les mêmes. Donc, il faut les stocker aussi, il faut les nettoyer, les entretenir. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses, finalement, qui ne sont pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça complexifie quand même un événement, surtout en outdoor, comme je vous disais. Et en termes de coûts, parce qu'on en parle toujours des coûts, nous, ça représente à peu près 20% de notre budget. C'est-à-dire que c'est 20% en plus. C'est-à-dire que si on ne faisait pas de déco-responsabilité, on pourrait, entre guillemets, économiser, mais c'est pas une économie en fait, c'est à l'heure, donc en fait on investit 20% en plus pour être un maximum éco-responsable. Et c'est vrai que c'est notre philosophie depuis ces 11 éditions, là qu'on arrive à la 12e édition. Et alors, le zéro déchet, sincèrement, pour nous, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'on fournit au ravitaillement des bananes, des oranges, donc il reste les plures d'oranges, les plures de bananes, donc ça part en compostage. Donc sur l'événement même, il restera des déchets, mais qui seront après compostés. Donc voilà, donc c'est... Tout ça, on travaille dessus et on s'améliore d'année en année. Ensuite, par rapport aux concurrents, il y a un vrai enjeu, c'est l'éducation. On se rend compte, nous-mêmes, qui sommes anciens trailers ou anciens trailers, c'est qu'on a encore des personnes qui jettent sur les chemins. Et une des initiatives aussi qu'on avait mis en place, et ce qu'on a fait pendant plusieurs années, qu'on continue de faire, c'est qu'on avait des équipes d'éco-acteurs qui passaient sur les chemins. Alors, il faut vous dire qu'on a à peu près 100 km de parcours balisé en région Île-de-France, donc ça fait quand même une sacrée distance à parcourir. Donc les gens, en fait, les éco-acteurs nettoyaient le parcours la veille de l'événement. Donc quand les coureurs passaient, c'était nickel. Et on avait une équipe qui passait le lendemain du passage des coureurs, comme ça, ce qu'on ramassait, on savait que c'était nos coureurs qui avaient malheureusement jeté ça par terre. Donc on avait une idée à peu près de ce que les coureurs rejetaient sur les parcours. Et on arrivait... de l'ordre de, je crois, c'était 1 gramme par coureur ou 2 grammes par coureur, quelque chose de très faible. Voilà. Donc ça, et ça nous a permis après aussi de communiquer vis-à-vis des coureurs pour leur dire ne jetez rien. On leur donne aussi ce qu'on appelle un petit sac déchets, une pochette déchets qu'ils accrochent à la ceinture et ils peuvent comme ça mettre leurs déchets tout au long du parcours et sur les ravitaillements, hop, ils vident ça dans les poubelles. Voilà. Donc c'est toutes ces petites actions mis bout à bout qui arrivent à faire un événement quasiment éco-responsable. Pas à 100%, mais on s'approche le plus possible.
mais vous êtes vraiment sur la voie.
On continue, on s'améliore.
Est-ce que tu as l'impression que là, ce que tu fais, ce que tu mets en place, que vous mettez en place, que vous développez, a un impact sur les autres organisateurs? Est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce que...
Ils nous suivent, on en suit d'autres aussi, parce qu'on n'a pas la science infuse, et je considère qu'on apprend de tout le monde. Donc il y en a qui nous suivent, oui, qui se rendent compte qu'on peut en effet supprimer les gobelets, mettre des citernes par exemple, parce qu'il y avait la problématique aussi des bouteilles d'eau, donc c'est bien d'avoir des gobelets, mais les gobelets on les remplit avec quoi? On les remplit avec des bouteilles d'eau. Donc ce qu'on a essayé de mettre en place aussi, c'était des citernes. Donc des citernes via notre partenaire Veolia, qui nous apportait des citernes de 500, 1000 litres, et donc on remplissait des bidons avec ces citernes, et ça permettait après de remplir des gobelets. Donc il y a des organisateurs aussi qui ont pris cet exemple. Donc on échange, donc on a une responsable développement durable qui échange avec d'autres organisateurs sur ces problématiques. Puis on voit aussi le Tour de France, ils ont fait des efforts, le Marathon Paris aussi, ils sont mis à retraiter leur carton. Voilà. Donc il y a des échanges, il y a un partage d'expériences.
Merci.
Merci à vous.
On prendra des questions à la fin. On peut peut-être directement enchaîner sur le film qu'on devait passer sur... l'action ou les actions ou la démarche que porte le groupe L'Apostrophe tout de suite, c'est possible? Oui, super, voilà.
Bienvenue sur la fabrique Charles Viac. La fabrique Charles Viac est une fabrique festive où les collaborateurs peuvent découvrir des acteurs innovants à travers l'univers cette année de Charlie et la chocolaterie. Pour la première fois, cet événement est éco-conçu. Il fera l'objet d'un bilan carbone et d'une mesure de l'impact social. Je vous propose de nous suivre pour aller découvrir les exposants et les fabricants. C'est parti! Le marché de Noël, pour toi, c'est quoi?
Pour moi, ce serait des cadeaux responsables.
Le marché de Noël, en un mot?
Magique.
Charlie et la chocolaterie.
Convivial.
Super.
Selon moi, organiser un événement responsable doit fonctionner sur deux piliers. Le premier est le côté environnemental et le second est le côté social. Tout ça, et pour moi c'est très important, c'est de pouvoir garder à l'esprit qu'on est en mesure de pouvoir produire un événement qui est à la fois durable et désirable.
En quoi c'est intéressant, en quoi c'est important de faire une mesure d'impact social de cet événement?
Ce qui est intéressant en fait, c'est de mesurer l'impact social généré par le marché de Noël auprès des exposants et sur les participants eux-mêmes, c'est-à-dire les collaborateurs du campus Charles Viac. C'est une manière de valoriser les actions positives de chacun.
J'étais très contente cette année de voir que finalement on ouvre aux collaborateurs la possibilité de proposer aussi un stand Aquafit. On présente donc ces décorations végétales qui sont issues d'un concept japonais qu'on a revisité pour être justement plus soutenable, au sens qu'on a remplacé des ingrédients venant du Japon, etc., pour trouver des ingrédients locaux, puisque notre atelier est situé à Colombes, donc tout près d'ici.
J'ai voulu participer à ce marché parce que je réalise des pièces en céramique. Toutes les pièces que vous voyez ici sont réalisées à la main.
Quels sont les messages que vous êtes venus porter aujourd'hui?
C'est de faire du social, puisque tout est parti d'un projet social dans la vallée d'Araku. On paye 2,5 fois le cours du café aux producteurs de la vallée d'Araku.
Quels sont les messages que vous êtes venus porter aujourd'hui sur le marché?
Aujourd'hui, on est venu porter l'idée qu'on peut s'engager avec la mode, on peut venir soutenir des grandes causes environnementales, on peut planter un arbre avec un bracelet, aider une tortue en s'achetant un produit qui fait plaisir. Ce qui est génial, c'est que les gens sont hyper curieux. On a beaucoup de questions sur nos projets pour les animaux, on nous demande où sont plantés les arbres, pourquoi les gens les plantent. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a un vrai engouement autour de la mode éthique.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les causes que Rebelle soutient?
Rebelle, donc, c'est une association qui prépare des confitures à partir de fruits et légumes invendus. Et donc, dès qu'elles sont collectées, elles arrivent en cuisine chez nous, au Bervilliers. Ce sont des personnes en situation d'insertion qui les préparent. Donc on a à la fois une dimension environnementale et une dimension sociale.
Comment est-ce que vous réinventez Noël?
C'est réinventer sa décoration, c'est réinventer ce que l'on va mettre sur la table. Il y a plein de gens qui viennent faire les ateliers, on sent qu'ils ont envie de fabriquer par eux-mêmes. Puis ils sont contents aussi que ce soit des livres recyclés ou des magazines recyclés. On sent qu'il y a aussi cet attachement à ce que la matière première soit réutilisée.
Quelle est la démarche des Furoshiki? Emballage responsable, dites-nous-en un peu plus.
Le Furoshiki, c'est un emballage en tissu qui s'adapte à tous les cadeaux avec une petite technique de nouage. C'est joli, pratique et hyper facile à faire.
Vous représentez aujourd'hui l'UNICEF. Qu'est-ce qui vous donne envie de nous retrouver d'année en année et comment est-ce que vous trouvez que ce marché évolue?
Eh bien, c'est l'accueil qui est toujours vraiment charmant. Les gens ici sont super gentils, ils connaissent l'UNICEF, ils achètent pour l'UNICEF. C'est pour nous une opération de communication qui est très bonne.
qu'est-ce qui vous donne envie de vous retrouver sur le marché de Noël aujourd'hui?
Bah déjà, c'est un moment qu'on attend avec impatience. C'est vraiment des bons moments qu'on passe en équipe. On prend des photos ensemble, on est heureux de se retrouver et de partager un moment convivial entre collègues.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de terminer tes derniers achats de Noël?
Parce que je sais chaque année qu'il y a toujours des bonnes idées de cadeaux et donc aujourd'hui, c'en est la preuve. J'ai acheté ce t-shirt-là avec une super cause, donc 2 euros qui sont reversés pour le cancer du sein.
Bah, c'est super agréable, c'est génial de faire une journée comme ça avec ses collègues pour s'amuser et faire des décorations de Noël, c'est chouette.
Merci. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous dire, Nicolas Turpin, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu fais et cette illustration à travers ce cas précis?
Tout à fait. Depuis 12 ans, donc, j'ai créé l'agence EcoEvent, qui est une agence qui est spécialisée sur les événements éco-responsables. Voilà, ça c'est pour le long terme et pour le court terme. Je représente donc Sylvie, qui est responsable com et RSE donc, pour L'Oréal sur le campus Charles Jacques, hein, voilà, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Que vous dire? Donc, je me suis fait des petites fiches, parce qu'effectivement, tout ça s'est fait peu de déchets, des toutes petites fiches. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'effectivement, le shampoing fonctionne plutôt pas mal sur moi.
Je vois pas le rapport, mais enfin, je le cherche. Hein,
Avec L'Oréal.
Ah, voilà. Oui, effectivement. Ouais.
Non, le film, je pense, est assez représentatif de ce qu'on a pu faire. Alors, je vous cache pas que lorsqu'on a reçu le brief, en tant que patron d'agence, de recevoir un brief sur un marché de Noël, c'est pas ce qui est le plus excitant, clairement. On s'est posé la question à savoir si on allait y aller ou pas. Et en fait, quand on voit le niveau d'attente de L'Oréal sur le sujet et le bel exemple que peut être ce type d'événement, parce qu'à la fois, on vient traiter, il y avait un souhait, je vais en parler après, effectivement, sur le zéro déchet, mais il y a aussi toute la dimension de l'ESS et toute la dimension sociétale qui est quand même drôlement intéressante. Et quand on rajoute à ça le fait qu'il y a 1500 personnes qui sont passées par là, et je reviendrai aussi par la suite sur le sujet, on se dit qu'il y a peut-être effectivement un truc à faire. Voilà. Alors, concrètement, et après je ne vais pas passer trop de temps sur le sujet parce que je pourrais vous parler d'autres événements qu'on a pu monter comme ça avec du Zero Waste. La finalité de cet événement, c'est qu'on a réalisé ce que moi j'appelle en déchets ultimes, des choses qui sont non valorisables et que, voilà, qui sont parties sur des poubelles classiques. On a sorti de cet événement avec deux grands sacs poubelles noirs, donc des sacs de 100 litres, voilà, qui étaient essentiellement composés d'emballages, de plastique, de double face, etc. Voilà. Tout le reste et tout ce que vous avez pu voir, on a réussi à chaque coup à lui donner une seconde vie. Tout le décor qui a été monté, qui était en rebord, donc en carton alvéolaire, tout ça est reparti chez L'Oréal dans une autre division puisqu'ils ont trouvé ça excessivement intéressant et donc ils ont dit bah, on va le garder, il est hors de question de le jeter, on le garde. Tous les sapins, pour le décor un peu féerique de Noël, tous les sapins sont repartis dans des associations, dans un hôpital à Clichy, repartis également avec des salariés qui sont repartis avec les sapins. Au final, on a réussi à, ben voilà, comme je vous le disais, avoir très peu de déchets. Ça, c'est vraiment la donnée qui était essentielle. Après, ce qui était aussi intéressant sur cet événement, c'est qu'il y avait un souhait de faire de cet événement un événement un peu exemplaire. Pour certains, vous avez peut-être travaillé pour L'Oréal et on connaît leur niveau d'exigence. C'est pour ça que je le cite dans le film, en chaque coup. Enfin, voilà, le souhait, c'était de pouvoir montrer qu'on était en mesure de pouvoir faire quelque chose qui était à la fois durable et désirable. Il y avait donc le souhait, en tout cas de la part de Sylvie, de faire un événement qui soit référent pour le groupe et pour pouvoir le démontrer justement aux autres donneurs d'ordre communicants de chez L'Oréal. Donc pour ça, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'étayer avec des chiffres. Et on l'avait proposé, alors cette fois-ci c'est un peu une option, tu vois, comme quand il y a des clients qui prennent quelques options. On a proposé un bilan carbone et une mesure de l'impact social. Les deux ont été pris, on a réalisé les deux études, hein, qui sont assez intéressantes. Sur le bilan carbone, on a fait donc un événement qui était à 2,2 tonnes équivalent carbone. Ça parle à peu de personnes, voilà, des chiffres comme ça. Je peux vous dire, nous, on fait pas mal de bilan carbone d'événements, c'est très, très, très peu. Et dans ces 2,2 tonnes équivalent carbone, on avait 85% qui étaient liés aux émissions de CO2 sur le poste de transport, fret et le transport des personnes. Donc 85% sur lequel on ne peut pas vraiment trop agir. Ensuite, sur l'étude d'impact social, et ça c'est excessivement intéressant, et ça revient en fait un peu à la genèse même de notre métier, qui est d'être cette courroie d'entraînement, cette caisse de résonance, le gigaphone que peut faire effectivement l'événementiel. Et moi j'ai ressorti, parce que j'ai une petite fiche, j'ai ressorti quelques données qui me semblent très intéressantes à mettre en exergue. 68% des collaborateurs ont parlé de l'événement autour d'eux. Donc là, quand on parle de caisse de résonance, plus que jamais, dans les familles, auprès d'autres collaborateurs, 68%, c'est énorme. Ça veut dire que moi, je suis allé sur un événement qui m'a plu, a priori, au regard des images, qui est un événement éco-responsable, et derrière, je retransmets l'information à 68%, enfin 68% des personnes retransmettent l'information. Une autre donnée hyper importante et très intéressante, 82% des collaborateurs ont été fiers de participer à cet événement, avec derrière pour conséquence de renforcer la fierté d'appartenance à L'Oréal ou à une entreprise, peu importe. Ça aussi, quand aujourd'hui on connaît les soucis et les difficultés qu'il y a sur les RH, ça peut dire que quand même, c'est pas rien. Que vous dire de plus ? 240 personnes sont passées sur les ateliers de upcycling. Donc on leur a montré aussi que ben voilà un produit, on peut le détourner, lui donner une seconde vie. On a sauvé 166 kilos de fruits grâce à l'association Rebelle qui transforme des fruits abîmés voilà, en confiture. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'est quand même, il est aujourd'hui possible non seulement de faire un événement zéro déchet ou très très peu de déchets, mais en tout cas et surtout de pouvoir déployer ça autour et d'avoir cette caisse de résonance grâce à la communication interne. Juste pour finir, et ça sera un peu ma conclusion, moi sur les clés de succès, comment réussir à faire un événement, en tout cas Zero Waste, moi il y a deux éléments qui me semblent importants, c'est à la fois le temps, d'avoir le temps d'anticiper, d'avoir le temps de pouvoir trouver les bonnes filières. On parle souvent de l'ESS, c'est très bien, nous on travaille avec beaucoup de structures de l'ESS, mais ils n'ont pas tout le temps le même temps que nous, le temps de l'événement. Et donc si on veut que ça matche, il faut absolument qu'on ait le temps de pouvoir réfléchir. Le temps de réfléchir lorsqu'il y a des appels d'offres, le temps de pouvoir construire un dossier et pas de le monter juste en 15 jours. Parce que là, c'est effectivement compliqué. L'urgence est effectivement l'ennemi, en tout cas, du zéro déchet. Et puis la deuxième chose, bah, effectivement, c'est de décloisonner et de pouvoir effectivement travailler avec d'autres personnes. Donc il y a toute cette notion d'innovation, de création qui est drôlement importante. Là, c'était juste, je vous parlais effectivement du cas pratique du marché de Noël de L'Oréal. Après, nous, on en fait plein. Je vous donne un autre exemple aussi. Demain, on commence à monter 3 stands sur le salon de l'agriculture. On a un certain nombre de planchers. On a 400 mètres carrés de planchers. Ben là, on est en train de faire en sorte que ces 400 mètres carrés de planchers vont trouver une seconde vie à travers des structures comme Pimp My West, qui vont récupérer du plancher, le transformer en meubles, comme la réserve des arts, je sais pas, oui. C'est un peu plus connu sur la réserve des arts, qui vont aussi récupérer des choses. L'année dernière, sur le salon de culture, pareil, on avait 300 mètres carrés de plancher qui a été récupéré par une association, un théâtre, qui s'en est servi pour refaire toute sa planche, toute sa scène pour son théâtre. Donc en fait, il existe, si on a les réflexes, si on a le temps, il existe plein de solutions pour éviter, en tout cas tendre vers des événements les moins producteurs possibles de déchets.
Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Prie. On va passer à quelques questions de la salle. Avant de passer à ces questions, je voudrais faire une annonce à contribution, un appel à contribution qui m'est pour moi en fait. C'est qu'on vient de créer un lieu à Paris qui s'appelle Right City et qui c'est un lieu multidisciplinaire qui a pour vocation, de rassembler des acteurs de l'environnement, de la démocratie, de l'innovation sociétale, de la culture, des arts, pour les faire dialoguer ensemble, créer des imaginaires, créer des récits, créer des projets et nous rassembler pour faire. Et ça, c'est 1000 m² et on a besoin de moquettes, enfin de sol. Donc c'est de la pub, enfin c'est un appel. Donc si il y a parmi vous des personnes qui ont 200, 300, 400, 1000 mètres carrés de sol à nous donner, parce qu'ils l'ont récupéré, je ne sais pas quoi, eh bien, nous serions absolument ravis de l'accepter. Voilà pour mon petit quart d'heure publicité. C'est à Montparnasse, le lieu, aux 4 rue Vigée-Lebrun. Ah, dis donc, bah, tu connais tout alors déjà. Oh là là, les politiques, Freddy. Alors, non, sérieusement, c'est une vraie annonce, donc je serais ravi et n'hésitez pas à m'appeler. Oui. Tu veux dire quelque chose ? Mais après, j'aimerais bien qu'on passe la parole à la salle et que la salle pose des questions. Puis après, nous aurons l'intervention politique. Oui.
Après,
ou la réaction
je
politique.
Je relisterai la liste des solutions qui sont donc des gens dans la pièce à côté. Mais il y a notamment Cédric que vous avez vu tout à l'heure qui nous a parlé de la fresque du climat. Et en fait, on organise à destination uniquement des gens qui sont là aujourd'hui une grande fresque du climat ouverte à tous. Donc c'est gratuit. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui pourront venir. C'est le 1er avril prochain. C'est un lundi. C'est une vraie date. Et ça va se passer chez toi, Jérôme.
Ah, c'est à Bretiti. Ben, je suis ravi de l'accueillir. Alors vraiment, vous allez pouvoir venir et contribuer. Et voilà. Et c'est génial.
Ce lieu. Donc je vous enjoins tous à aller voir Cédric qui est juste derrière pour vous inscrire. Et puis s'il y a trop de monde, on refera une autre session avec grand plaisir. Voilà.